Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les incontournables coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Cerdic vous donnera l'agenda de la semaine sous une nouvelle formule, on en parlera tout à l'heure.
Oh oui.
Sans oublier les débats avec ce soir le football, le ballon d'or et la Formule 1. Enfin, nous recevons Patrice Morel, l'entraîneur de l'US Colomiers avec nous ce soir, Lucas Cerdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Le Radio Don.
Radio Don, ça veut dire merci.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Comment allez-vous en ce lundi 26 novembre?
Très bien, qu'est-ce que c'est que ce nouveau jingle?
Alors c'est le Radio Don, on va en parler maintenant. Merci Lucas, portez-vous bien, être une équipe soudée. Radio Présence a besoin d'abonnés, a besoin de vous pour vivre, pour continuer de vous offrir les émissions que vous aimez. Aidez-nous tout simplement en faisant un don au 05 62 48 62 00, 05 62 48 63 00 sur le site internet de la radio, radiopresence.com tout simplement. C'est pour aider la radio.
Il me semble que tu as dit 6300.
C'est
6300.
C'est bien ça.
Ouais, d'accord.
C'est
pas trompé. Ouais.
C'est bien ça. J'ai fourché.
Oui, oui, oui.
Excusez-moi.
Il n'y a pas de quoi.
On a Patrice Morel, notre invité. Bonsoir, Patrice.
Bonsoir à tout le monde.
Vous avez vu Lucas
Moi, je surveille.
C'est le coach de l'émission.
C'est le coach. Je suis le président et il y a le coach.
C'est ça.
C'est exactement ça. L'actualité sportive, messieurs, cette semaine, ce week-end.
Un peu déprimante.
Déprimante, surtout pour le maillot tricolore.
Pour le rugby, le tennis,
même pour Toulouse en général.
On en parlera tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous a marqué dans la semaine. Et ce soir, on vient d'en parler, c'est un petit peu mitigé, messieurs. On va commencer avec vous, Lucas Cerdic. Il y a deux coups de gueule. Hein. Le premier, c'est vous pour la Coupe Davis, justement, l'équipe de France qui a perdu contre la Croatie en finale de la dernière Coupe Davis.
Oui, moi je partais un petit peu défaitiste, mais je demandais qu'à me motiver, quoi, qu'à être transcendé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie un tout petit peu d'égratigner Yannick Noah aujourd'hui.
Ah bon?
Ben oui. De la même façon que je m'en étais pris un tout petit peu à Didier Deschamps la semaine dernière, je m'en prends aussi un petit peu à Yannick Noah. C'est pas parce qu'ils font 95% du temps les bons choix que quand ils le font.
Il y a Patrice Morel qui tremble parce qu'à chaque fois il y a l'entraîneur et.
Moi je veux parler que d'une chose et d'une simple chose. C'est le choix de Jérémy Chardy sur le premier match qui pour moi n'était pas judicieux tout simplement parce que c'était un peu le match qui pouvait faire basculer la finale. Oui. On aurait dû adopter, en tout cas envisager la même tactique que l'année dernière quand on a battu la Belgique, c'est-à-dire
le capouille d'entrée.
Ouais, partir du principe qu'on aurait du mal à aller décrocher deux points face à Marin Cilic, ah oui. Mais qu'il y avait un élément peut-être un peu plus faible, ou en tout cas plus prenable, en Borna Koric. Et en cela, mettre Jérémy Chardy d'entrée pour un premier match. J'ai trouvé ça peu judicieux, ça envoie pour moi un mauvais signal. C'est pas tous les ans qu'on a l'occasion de jouer une finale de Coupe Davis avec que des joueurs qui l'ont déjà gagné. C'est un luxe, quoi. On a quand même Lucas Pouille qui a fait une finale l'année dernière.
Qui offre le point de la victoire contre la Belgique.
Qui offre le point de la victoire contre la Belgique. Voilà, si on oublie un petit peu, même si c'est difficile, sa saison très moyenne, faut pas oublier qu'un joueur comme ça, il l'a prouvé, il est capable de se transcender au moins sur une finale, il a de l'expérience maintenant, il a été numéro un français, et peut-être qu'il aurait pas fait mieux hein, que Jérémy Chardy, mais en tout cas, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait tenter. On n'est pas dans les vestiaires, on ne sait pas s'il avait un souci physique, s'il avait fait de très mauvais matchs en préparation, mais voilà, c'était pour moi un coup qui se tentait. je le regrette un tout petit peu.
Timothée Rovert, est-ce que finalement ça aurait changé quelque chose quand on voit les propos, je reprends les propos justement du capitaine Yannick Noah en conférence de presse hier soir, où il a dit, passez-moi l'expression, où il a dit on s'est clairement fait défoncer par la Croatie, où ils sont même allés dans le vestiaire des Croates pour les féliciter. En gros, il n'y avait pas débat sur ce week-end. Est-ce que la présence ou non de Lucas Pouille sur le premier match aurait finalement changé quelque chose?
Pour moi, le problème, c'est le choix des joueurs en fait, de A à Z, c'est-à-dire que Lucas Pouille n'était pas au niveau. Il y a eu un problème avec Gilles Simon, il n'a pas pu prendre Gaël Monfils, il voulait en faire
Lucas Pouille il fait quand même un gros match.
Oui, mais
il craque sur la fin. Mais
Yannick Noah l'a dit. Combien de joueurs ont battu un top 20 cette année? Donc oui, le niveau du tennis français reflète en fait cette finale. Moi, j'ai juste envie de dire.
Vous êtes d'accord?
Non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais je dis juste que Borna Koric est un jeune joueur encore, même s'il a montré un excellent niveau. C'est un jeune joueur et je pense qu'il y avait moyen d'exploiter un petit peu cette jeunesse. Il y avait forcément une faille, quelque chose. Il demandait peut-être qu'à craquer ce joueur. Je ne sais pas. En tout cas, ça aurait été. Il y aurait eu plus de chances de notre côté, d'après moi, d'un point de vue extérieur. Et c'est toujours plus facile de le dire après la finale perdue, forcément. Mais il y aurait peut-être eu plus moyen avec Lucas Pouille. Bon, tant pis, maintenant c'est fait et on passe à autre chose.
Donc la Croatie sera le dernier vainqueur de la Coupe Davis. C'était la deuxième Coupe Davis de son histoire. On reste sur les coups de gueule. Je me tourne vers Timothée Rouvière. Un coup de gueule, on va parler de rugby là par contre. On va parler de rugby, on va parler de l'équipe de France de rugby qui nous avait enthousiasmé la semaine dernière en battant l'Argentine. Et, ils sont retombés dans les travers contre les îles Fidji. Défaite au Stade de France qui a sonné très creux quand même. Samedi soir, défaite 21-14. C'est quand même c'est honteux, non?
Ah, ça fait mal. Alors moi, c'était un coup de gueule à la base sur l'équipe de France. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire encore sur l'équipe de France? Que les joueurs ne sont pas au niveau, que le top 14 n'est pas assez compétitif. Mais mon coup de cœur, il est pour la belle performance des îles Fidji, qui gagnent pour la première fois contre l'équipe de France. Oui. Donc je rappelle, 21-14 avec deux essais partout. Hein. Des joueurs formidables, on en parlait avec Maxime avant l'émission. Nakarawa, Twistova, Yato, Radradra, Taliboula, c'est des joueurs qui ont une dimension physique et qui ont une âme qui est phénoménale.
Finesse technique aussi. Hein.
Qui ont une finesse technique, ont été champions olympiques pour la plupart à Rio en rugby à 7, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui se réunissent que très peu de fois dans l'année. Et sortir une performance comme ça, c'est magnifique.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce qu'a fait les Fidji, c'est incroyable. Je parle quand même un tout petit peu des Bleus. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le gros coup de gueule à un moment de Mathieu Bastaro, qui m'a vraiment impressionné. Je trouve que ce joueur-là a pris ses responsabilités, ça c'est très bien, il le fallait.
Il a clairement dit, on s'est pris pour qui, on gagne contre l'Argentine, on se voit plus beau que n'importe qui.
S'il le dit, c'est que quelque part il l'a vu, c'est assez inquiétant. Mais bon, au moins il l'a souligné, et puis peut-être que ça va faire avancer les choses.
Maxime Brossard.
Après ce résultat des Fidji, pour rejoindre Timothée, moi je trouve qu'il n'est pas si incroyable que ça, finalement, puisque c'est une équipe qui, à mon avis, a énormément de potentiel. Je pense notamment, je me réfère à l'équipe A7 des Fidji, qui a longtemps occupé la 4e ou la 5e place du tournoi du circuit international de rugby A7, et qui, avec l'arrivée de Ben Ryan il y a quelques années, en fait, c'était un sélectionneur anglais. Il est arrivé et il a mis en place de la nutrition, il a mis en place de la préparation, de la rigueur, de la tactique,
du professionnalisme,
et à partir de là, regardez, ils ont fini champion olympique, ils marchent sur tout le monde quand c'est le fameux circuit HSBC de rugby 7. Je pense que je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher aussi pour le 15.
Ce sont ces joueurs qui ont nourri pendant longtemps aussi la sélection néo-zélandaise, hein.
Oui. Donc pour la plupart, il y a beaucoup de néo-zélandais qui ont été des Iliens qui ont été naturalisés pour jouer avec la Nouvelle-Zélande. Il y a un vivier qui est quand même incroyable.
C'est clair.
Et je pense que voilà, c'est une nation, si elle est bien prise, elle peut rivaliser avec les meilleurs sans aucun souci.
On retourne vite fait encore quelques mots sur l'équipe de France pour terminer là-dessus. On est à 9 mois de la Coupe du Monde. Est-ce qu'une défaite comme ça change tout finalement, ou on est sur la suite logique de ce qui se passe depuis malheureusement 4 ans maintenant?
On a l'impression qu'on n'a pas avancé tout simplement. Ça fait un an que Jacques Brunel est arrivé à la tête de l'équipe de France. C'est des victoires, c'est une série de défaites. On ne sait pas trop quels sont les joueurs cadres. On n'a pas d'équipe type. C'est un peu désastreux.
Ce qui m'inquiète, c'est que je vois des joueurs qui ont quand même la tête sur les épaules, qui ont souvent des discours assez cohérents, qui font les constats, qui disent les choses, et pourtant les choses ne changent pas. Je trouve que le meilleur résumé, c'est Jacques Brunel qui l'a fait en conférence de presse, c'est-à-dire il a dit exactement, dans notre tableau de marche, dans la progression qu'on veut faire, c'est un énorme coup d'arrêt. On peut pas le définir mieux. C'est un énorme coup d'arrêt. C'est comme si la voiture s'était arrêtée en plein milieu d'une autoroute et qu'on se demande si elle va redémarrer.
C'est un peu votre cas, c'est ça?
Non, c'est
justement, je ne parle plus
de ça. On en parle pas. Il y a une nouvelle voiture, on fait une petite pause.
On n'en parle pas.
Patrice Morel, vous l'entraîneur, comment on voit ça?
Et moi, un grand amoureux de rugby avec. Je suis toulousain, donc. Beaucoup d'amis rugbymen, et je pense que le travers, c'est. Est-ce que c'était pas la victoire contre l'Argentine aujourd'hui, qui était surprenante contre une équipe d'Argentine et qui était pas au niveau sur ce jour-là et qui le sera certainement sur la Coupe du Monde.
On est dans la poule de l'Argentine pour la Coupe du Monde.
Je pense qu'après, ce qui est inquiétant, c'est un Stade de France quasiment vide, qui retranscrit quand même le désamour du peuple français pour le rugby, alors qu'à un moment, il y a quelques années, il se rapprochait énormément du football. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le calendrier avec les doublons. On ne comprend pas très bien tout ce qui se passe et encore une fois, c'est peut-être le Toulousain, mais je pense que l'épisode de Noves, pour moi, d'ailleurs, j'ai pu regarder le match de l'équipe de France et Dieu sait que j'ai porté le maillot français, j'ai été champion d'Europe jeune. Je suis fier d'être français, mais je trouve qu'il y a des choses quand même qui passent moyennement à mon goût.
Ouais. L'image de ce Stade de France quasiment vide, finalement, c'est. Est-ce que c'est à cause de l'équipe de France ou son manqué de respect? Est-ce que c'est à cause des Fidji? Est-ce que c'est aussi à cause du fait qu'il y ait quand même trois matchs au Stade de France en l'espace de 15 jours entre deux fois le rugby et une fois le football?
Non, c'est la France. C'est juste que le rugby n'attire plus personne. La vitrine est brisée, on va dire. Voilà.
Sachant que la France de foot,
c'est pas la France, du coup, c'est la Fédération française de rugby.
Mais en plus de ça, il y a des magouilles, il y a. En plus, c'est un sport qui s'est gargarisé des années avec les valeurs. Bon, voilà, au bout d'un moment, finalement, les valeurs, ils se les ont repris dans la tête. Ça me fait mal de le dire ça, je suis un grand amoureux du rugby, c'est mon sport favori. Mais bon, finalement, je pense qu'on aurait mieux fait de rester humble et de travailler.
Gardez la parole, Maxime Brossard. On va parler de votre. Coup de cœur, finalement, il y a deux coups de cœur
en un.
Le premier, c'est
Jessie Trémoulière, qui a été élue meilleure joueuse du monde, la française.
C'est vrai, bravo.
Joue au Stade Rennais. Voilà, quand même, les filles, elles sauvent un peu l'honneur du rugby français.
C'est ça. Et après, ça a gagné l'équivalent du ballon d'or.
C'est ça, c'est le ballon d'or féminin.
Tout à l'heure, du football.
Ouais, mais pour le rugby, ouais. Et oui, mon coup de cœur, la boxe. Ouais, je vous annonce un combat, comme souvent. Là, ce sera. Wilder contre Fury, ce sera un combat en poids lourd, ce sera dans la nuit du 1er au 2 décembre. Oui, je vais me lever à 5h, ouais. À 5h du matin, ce sera sur Canal+. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas Canal, malheureusement, il faudra aller
chez Maxime.
Les streamings ou chez moi, bien sûr, pas de problème.
Vous nous laissez vos
on mettra l'adresse en lien
sur le site,
il n'y a pas de problème. c'est une sorte de demi-finale, ce combat, en fait, qui devrait ouvrir les portes aux vainqueurs. Un combat contre Anthony Joshua, qui est le maître de la catégorie.
Intouchable.
Voilà, c'est un combat que je vais définir un peu entre une opposition entre le vrai bad boy et le faux bad boy. D'un côté, donc, vous avez Deontay Wilder, si on met le bronze bomber, 40 combats, 40 victoires, dont 39 KO. Mais bon, après, il a été aussi médaillé d'or olympique à Pékin. Mais c'est quelqu'un qui a bien géré sa carrière. On va dire qu'il a jamais, il s'est jamais battu contre des foudres de guerre, quoi. C'était plus des boxeurs qui ont servi un peu à agrémenter son palmarès, sa carte, on va dire. Les seuls vrais durs qui contre lesquels il s'est battu, je pense à Berman Stivern, qui est un Canadien, mais quand il l'a affronté, le pauvre Berman Stivern, il était hors de forme. Je pense qu'il avait fait ça, son camp de préparation à McDonald's. Et puis il y a eu Luis Ortiz aussi, le Cubain. Alors là, lui, c'était un boxeur qui est puissant, surnommé le Gorille, très fort. Maintenant, mais il revenait d'une suspension pour dopage et du coup, il n'était pas non plus au top, quoi.
Il l'a fait à McDo, à Quick et au Burger King.
Oui, on précise, ouais, McDo, Quick, Burger King, Five Guys, j'en citerai d'autres si vous voulez à la fin de l'émission.
Il n'a pas un palmarès si impressionnant que ça, finalement, ce boxeur.
Si, en fait, il a beaucoup de victoires, mais pas forcément contre des tueurs,
ça
on va dire.
Ça va être révélateur, là.
Comparé à, justement, au vrai bad boy, à Tyson Fury, le Gypsy King. Oui, bon, il est surnommé comme ça, pas parce qu'il est bon à la guitare, hein, mais non, c'est un dur, ce type. Il a fait 27 combats pour 27 victoires, 19 par KO. C'est un terrible trash talker. Il est terrible sur ça. Même d'ailleurs, il va peut-être un peu loin des fois. Il a souvent été repris. Il a eu des propos un peu déplacés. Bon, on va pas en rajouter. On va pas lui faire de la pub. Ouais, c'est un gars qui a pas sa langue dans sa poche, qui a pas ses poings dans les poches non plus, puisque c'est un sacré cogneur. Et bon, je pense notamment à sa victoire contre Klitschko en 2015, qui vous situe un peu le bonhomme, et ça va être une très très belle affiche.
Donc c'est dans la nuit du 2 ou 3
c'est ça.
Décembre,
du 1er au 2 décembre à 5h du matin sur Canal+.
Donc c'est dimanche matin, en fait.
Voilà, c'est
dimanche matin. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Oh. balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre. La veille est pour demain. Des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux. Fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde. Mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses.
C'était Yannick Noah sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé sur Radio Présence avec vous, Didier Rubio. Cette semaine, on va parler de micronutriments. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir Jean. Alors, les micronutriments, donc, comme on l'entend, il y a des nutriments et qui sont en quantité faible. Micronutriments. Donc, on va trouver les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. On appelle ça aussi des nutriments non énergétiques. Tout simplement parce qu'à la différence des protéines, des lipides et des glucides, qui sont des macronutriments et qui apportent de l'énergie, ces micronutriments, eux, ne vont pas apporter d'énergie. Et bon, parfois, il y a une confusion dans cette notion-là, parce que, par exemple, les vitamines, il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai besoin de vitamines parce que j'ai besoin d'énergie ». Non. J'ai besoin de vitamines pour avoir un peu de vitalité, mais pas forcément de l'énergie.
De l'énergie.
Voilà.
Vous l'avez dit, il y a les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Les vitamines.
Alors les vitamines, par exemple, les plus connues, c'est par exemple la vitamine C, il y a la vitamine D, la vitamine E,
dans le jus d'orange, vitamine du complet,
voilà. Donc actuellement là, pour la saison, la vitamine C, on va en trouver dans les produits de saison. Ça va être les oranges, par exemple, les clémentines, les agrumes, dans le citron. Donc ça, c'est une vitamine antioxydante qui est quand même très importante. Et ben, les autres aussi. La vitamine D, par exemple, c'est celle qu'on va trouver dans le beurre, dans les produits gras. Ça participe à la fabrication de l'os. Donc, par exemple, les enfants ou les adolescents ont besoin de vitamine D. C'est très, très important.
Les produits gras, on en avait parlé la semaine dernière.
Oui.
Il y a également les minéraux, c'est bien ça ?
Oui. Alors, les minéraux, voilà, on va trouver, les plus connus sont le calcium, le magnésium, le potassium. Donc, ces produits-là, par exemple, les fruits, les légumes, les... oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les fruits secs, Les fruits à coque, très bien, voilà, c'est ça, apportent beaucoup de minéraux et de vitamines, donc c'est quelque chose qui doit faire partie, je dirais, vraiment du quotidien. Vraiment, vraiment.
Et enfin, c'est compliqué à dire, hein. C'est vraiment compliqué à dire, il y a aussi les oligo-éléments.
Voilà, alors c'est oligo parce que c'est encore plus dans des quantités infinitésimales, c'est-à-dire que là on était de l'ordre du milligramme. Là, il y en a certains, on va passer dans le microgramme, quoi. Donc, c'est très, très petit. Et là, on va trouver le manganèse, le fer, qui est à la limite. On va trouver de l'arsenic, du vanadium, plein de petites molécules, vraiment très petites. Mais tous ces micronutriments interviennent dans toutes les réactions biochimiques. C'est-à-dire, ça constitue les enzymes. Et lorsque il en manque, en fait, pour parler simplement, l'organisme va s'enrayer, s'encrasser. Donc c'est très important qu'il y ait...
Des micronutriments.
Exactement. Mais
c'est encore
pas trop.
C'est encore plus important pour un sportif ?
Ah oui, pour le sportif, tout simplement parce que normalement, hein, le sportif, il a une dépense énergétique plus élevée. Il fait des activités que l'être humain, normalement, n'est pas forcément programmé pour faire, c'est-à-dire courir très très vite, des choses comme ça. Et du coup, il y a des impacts, il y a des sollicitations, et il y a des désordres ou de la blessure, et qui va occasionner qui va demander, on va dire, pardon, des apports supérieurs en micronutriments.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Le Radio Don.
Radio Don, ça veut dire merci.
Nous n'avons pas la chance du PSG ni celle de Montpellier en rugby, mais par contre, nous comptons sur des fidèles auditeurs. C'est pourquoi nous faisons appel à vous toute cette semaine pour le Radio Don. Aidez-nous au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou tout simplement sur le site radioprésence.com.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
Alors ne soyez pas surpris, chers auditeurs, il n'y a plus les résultats sportifs, le rendez-vous de Timothée Rouvière. Timothée, vous n'êtes pas triste?
Oh non, pas du tout.
Ça va.
Je laisse volontiers la place à Lucas.
Voilà, on intègre l'agenda de la semaine. Nouveau look, c'est-à-dire, Lucas, on va parler de ce qui va se passer en parlant de ce qui s'est passé en ajoutant...
Un pronostic.
Voilà.
Ça fait beaucoup, hein. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça? C'est parti. Beaucoup de sports collectifs au programme cette semaine et beaucoup de rendez-vous, notamment pour les Toulousains. On va commencer avec le rugby, top 14, 11e journée. Et on a une affiche vraiment, vraiment alléchante sur le papier. Elle se joue dimanche à 16h50 en clôture de cette 11e journée. C'est le Stade Toulousain qui va recevoir le Stade Français, un grand, grand classique du championnat. Là, c'est le deuxième qui affronte le cinquième et le deuxième, Toulouse. Hein, Toulouse qui allait s'imposer justement à Pau ce week-end, 15-13. Une belle victoire. Dans la douleur, mais
c'est pas Coraline, notre
fervente supportrice de la section,
qui a quand même eu, qui a eu le culot de venir avec
un bonnet.
Le bonnet de la section paloise.
Il est très très beau, mon bonnet. Il est juste blanc avec un petit écusson.
Coraline, vous étiez au hameau, c'est bien ça?
J'étais au hameau, exactement. Oui. Je me suis même fait siffler quand je suis arrivée parce que je suis arrivée en retard. Ils savent que je viens de Toulouse, mais que je suis pas pour Toulouse quand même.
Bon, oui, le hameau, la maison de retraite d'All Black.
Non, mais c'est une victoire importante pour le Stade Toulousain parce que c'est une victoire qui est pas très belle, qui est un petit peu laborieuse, mais qui est très importante dans l'optique de la saison toulousaine. Et là, ils vont accueillir le Stade Français, donc dimanche à 16h50. Est-ce que ça ferait pas l'objet d'ailleurs de notre petit pronostic? On en parle maintenant.
On peut partir sur ce pronostic.
On peut partir sur ce pronostic.
En gros, c'est pas au chocolat contre chocolatier.
De toute façon, on est d'accord qu'on est tous à espérer une victoire du Stade Toulousain, n'est-ce pas?
Non, moi, c'est pas au chocolat. Je suis désolé. Moi, j'avoue, c'est pas au chocolat. Quand je vais dans une boulangerie, je dis pas au chocolat. Donc mon cœur, entre guillemets, balance pour le Stade Français, mais juste pour ça.
Quelle honte.
Plus, je parle même pas de rugby.
Ah ouais, très bien, très bien. Donne un score, on verra.
Un essai d'écart.
Combien?
Un essai d'écart.
Ok. Bon, si t'as bon, je te ramène une chocolatine.
Non, pas au chocolat.
Moi, je vois une victoire du Stade Toulousain et je la vois étriquée dans les 20-15, quelque chose comme ça.
Maxime. Patrice, sinon.
Patrice.
Moi, j'espère une victoire du Stade Toulousain, après, étriquée ou pas.
Tant qu'il y a victoire, il y a victoire.
C'est victoire.
C'est le sportif qui parle, messieurs. C'est le sportif qui parle.
J'ai essayé un score. Je vais dire, allez, 25 à 10 pour le Stade Toulousain.
Timothée Rouvière.
Mais l'écart.
Moi, je vois pas d'essai dans ce match. Moi, je vois un 15-12 pour le Stade Toulousain.
Et Coraline, qui, est-ce que vous allez vous venger de cette défaite de Pau contre le Stade Toulousain?
Moi, je vois une victoire du Stade Toulousain, mais avec bonus défensif du Stade.
Ah oui, c'est joli. Pensé, ouais, d'accord.
Ça, c'est un beau pari. C'est
joli. Mal,
et Grégoire,
aucune prise de risque. Est-ce que comme moi.
Le deuxième réalisateur.
Alors, je suis très peu intéressé, donc j'ai pas vraiment d'avis construit, mais je vais dire oui.
Pour le Stade Toulousain.
Ouais, vraiment. Ça, je pense
voilà,
que c'est un bon
y a le Toulousain qui part.
Pronostic, oui.
Donc, c'est un beau pronostic. Donc, je suis le seul du Stade français.
Quelle honte. Déjà, vous dites pain au chocolat, ça va plus du tout, là, genre.
Donc, je vais être le seul vainqueur la semaine prochaine. Allez,
pendant ce temps-là, le vaincu de ce match Stade Toulousain-Pau, c'est-à-dire Pau, va se déplacer à Lyon. Là, le match sera plutôt samedi à 18h05. Et dans le même temps, Castres va avoir un match plutôt normalement sur le papier facile à jouer face à Agen à domicile. Agen 13e, Castres 6e. Donc, voilà. C'est samedi à 18h05. En Pro D2, on jouera la 13e journée avec un match dans la région qui peut être intéressant. Montauban qui reçoit Provence. Ah Montauban toujours en difficulté, 13e, et Provence qui est 11e, donc juste devant. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour les Montalbanais. Ce sera vendredi à 20h. Dans le même temps, Colomiers, encore plus en difficulté, 15e, se déplace à Soyo. On parle bien de
rugby.
Du rugby. 15e, Colomiers se déplace à Soyo, 7e. Et dimanche à 14h15, Carcassonne, surprenant 6e, se déplace à Nevers, 2e. On parle un tout petit peu de fédéral 1, parce qu'on parle, sinon on va. On parle juste vite fait de la poule 3.
Sinon, on n'aura pas parlé de rugby.
Voilà.
C'est simple.
On parle juste vite fait de la poule 3 parce que Blagnac reçoit Florence et Blagnac est 2e. Florence est 10e. Normalement, c'est un match sur le papier. Hein.
Ça devrait aller.
Tranquille.
Dimanche à 15h. Et un tout petit mot sur le derby Castanet-Saint-Sulpice. Toujours dans la poule 3. Là, ça va cogner sévère. Hein.
Ah là là, oui. Là, il faut y aller avec les parapluies hein, parce qu'à mon avis, ça va tomber. Là.
Bon, voilà pour le rugby. On passe au football avec un match que les Toulousains doivent gagner. Hein. Ils reçoivent Dijon. Toulouse est 15e, 10 matchs sans victoire et ils accueillent Dijon 18e, 11 matchs sans victoire, c'est la seule équipe sur une série pire que la leur. Ça se joue dimanche à 15h
en même temps que le rugby, c'est malheureux.
Voilà, Paris qui a perdu enfin Toulouse qui a perdu à Paris, pardon, 1-0 petitement, mais bon, voilà, il y a moyen de faire quelque chose peut-être face à Dijon. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes, ce serait vraiment bien qu'ils fassent quelque chose. Un mot de national parce que Pau accueille Lyon-la-Duchère vendredi à 20h.
Et un mode national 2 où Colomiers reçoit la réserve du Nîmes Olympique.
On le dit, c'est dit, et on en reparlera après.
C'est dit.
En handball, on joue la 11e journée. Toulouse reçoit Ivry. Toujours pas de victoire pour les Toulousains. Hein, ils ont perdu à Nantes 31-27, mais bon, c'est logique. La semaine dernière, mercredi à 20h30, hein, Toulouse-Ivry. La 11e journée en volley, ce sera la 9e journée. Ce sera vendredi à 20h. C'est Toulouse qui reçoit 7. Ils ont gagné 3-1 face à Nice la semaine dernière. Les Toulousains en volley, ils sont pas mal, ils sont 7e. Ouais. Et en hockey, on parle très très rapidement, puisque c'est le début de la phase retour et Toulouse va accueillir Valence,
les Lynx,
CHBC, voilà, les Belugas qui ont gagné 6-5 à Valence la semaine dernière.
Alors, c'est le retour.
Donc là, ils sont quatrième à un point du premier.
C'est un point du premier. Ça, il y a un petit bouchon en haut du classement, mais ça peut être favorable aux Belugas. Ils font un super début de saison. Ils font une très belle phase aller. Et là, ça commence le retour. J'espère que ce sera aussi beau.
Samedi à 19h30, Toulouse-Valence.
Merci Lucas, c'est complet. Comme ça, on se retrouve là tout de suite pour le premier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Le 3 décembre prochain sera désigné le Ballon d'Or France Football 2018. Le trophée individuel le plus convoité du football mondial devrait quitter les mains de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se le partagent depuis 10 ans maintenant. Et cette édition pourrait couronner un Français, une première depuis 1998, et Zinedine Zidane. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude. Question simple, on ne répond que par oui ou par non, et on débat ensuite. Un Français mérite-t-il le Ballon d'Or? Lucas Cerdic.
Oui.
Patrice Morel.
Oui.
Maxime Brossard.
Quelle question, oui.
Et Timothée Rouvière.
Bien sûr, oui.
Oui, qui? Alors qui? Voilà, maintenant...
Voilà. La question, c'est mérite-t-il? Oui, il mérite. Vont-ils? Non, ils ne vont pas.
Normalement, ce serait Luka Modric. Les premières rumeurs.
Déjà, d'après les premières rumeurs, mais c'est pas qu'une question de qui, finalement... La nationalité importe peu, j'ai envie de dire, mais pas tant que ça, parce que la France va pâtir fatalement du fait qu'il n'y a pas une personnalité qui ressorte vraiment du lot. Certains autour de cette table veulent que ce soit Mbappé, d'autres veulent que ce soit Varane, d'autres veulent peut-être que ce soit Griezmann. Et le fait que les forces comme ça se dispersent va forcément jouer en leur défaveur. J'en vois deux, voire
c'est
trois dans le top 5.
C'est un peu le cas de l'Espagne en 2010, où il y en a, voilà, Iniesta, il y en a, il voulait Xavi, c'est Messi.
C'est vrai, voilà. Non mais tout à fait, c'est exactement le même souci. Mmh. Et tout à l'heure, vous avez dit que Cristiano Ronaldo ne l'emporterait pas. Je ne serais pas aussi catégorique que vous.
Donc vous voyez Cristiano Ronaldo ?
Moi je vois Cristiano Ronaldo.
Oh non, pas possible.
C'est impossible.
Oh, non.
Timothée Rouer,
Ronaldo, c'est pas possible. Ronaldo. Bon, ok, il a gagné la Ligue des Champions, ça on lui enlève pas.
Il n'a pas fait que gagner la Ligue des Champions, il a gagné pour la troisième fois d'affilée, et on voit comment le Real de Madrid se porte depuis qu'il n'est plus là, alors que la Juventus marche sur l'eau.
On sait que c'est une année importante, parce que avec la Coupe du Monde 2018, voilà, la Coupe du Monde est prime sur le Ballon d'Or, mais là, à part le triplé qu'il met contre l'Espagne en premier match de poule, il fait rien. Ronaldo,
on parlait tout à l'heure de l'Espagne, pour moi c'est le parallèle est parfait. À l'époque de l'Espagne, c'est vrai. Écoutez bien, qui se bagarrait à l'époque, on voulait que ce soit un Espagnol ou éventuellement hollandais. On parlait de Schneider à cette époque-là, Schneider, on s'en souvient très bien, qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Donc là, on est à peu près sur le même cas avec Modric. Hein. Il est battu en finale de Ligue des Champions face à une équipe qui était vraiment.
Il a gagné la Ligue des Champions.
Excusez-moi. Vous m'avez compris. Au final, qui c'est qui rafle le Ballon d'Or ? C'est Lionel Messi. C'est ça,
Patrice Morel.
Il n'avait rien fait au mondial, l'Argentin.
Vous avez dit oui, c'est un Français qui doit le gagner. Qui ?
Mais parce que dans des années comme ça, l'année Coupe du Monde, la Coupe du Monde est toujours prioritaire. Et je pense que si on prend statistiquement le Ballon d'Or, les années de Coupe du Monde, c'est souvent un joueur qui a brillé pendant la Coupe du Monde.
Tout à fait.
Et pourtant, le dernier vainqueur d'un Ballon d'Or l'année où il est sacré champion du monde, c'est Fabio Cannavaro
en 2006.
Et voilà. Il n'y a que 6 joueurs qui l'ont réussi à être Ballon d'Or l'année où ils ont été champions du monde. Le premier, c'était Bobby Charlton avec l'Angleterre en 1966. Il y a eu Rossi, l'Italien, en 82, Lothar Matthäus avec l'Allemagne en 90, bien évidemment le dieu Zidane en 98, et enfin Ronaldo en 2002, et Cannavaro, on vient d'en parler, c'est quand même rare.
Mais Cannavaro avait quelque chose, peut-être Varane n'en a pas, c'est qu'il était charismatique.
C'est vrai.
Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, parce qu'avec tous ses excès, passé par le Napoli, mais il dégageait quelque chose.
Il était capitaine, il me semble, en plus.
Il était capitaine, mais il dégageait quelque chose de la folie et qui correspondait au peuple italien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a eu le Ballon d'Or.
Il y avait une certaine élégance aussi, même en dehors du terrain, beaucoup de prestance.
Oui, et puis ça venait récompenser une carrière qui se terminait ou qui n'était pas loin de se terminer. Il y avait peut-être aussi ça. On disait, si on ne lui offre pas cette année, on ne lui offrera jamais.
Oui, bien sûr.
Moi, je reviens, je reste sur ma position. J'imagine quelqu'un qui coiffe tout le monde au poteau, et ça pourrait être Ronaldo.
Ouais. Timothée Rouer.
Pour moi, ça peut pas être Ronaldo, parce que Ronaldo.
J'ai pas dit que je voulais, attention.
Oui, d'accord. Il fait plein de choses cette année, mais pour moi, il y a trop de concurrence, que ce soit avec Mbappé, Griezmann et Varane et même Modric, pour que Ronaldo et Messi, depuis 10 ans, ils se partagent le Ballon d'Or, parce qu'il y a pas de concurrence. Hein.
Lucas Hernic, vous parlez d'avoir une image, d'avoir une aura, une certaine aura, comme pouvaient l'avoir certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui dès le mois de septembre, octobre, disait le Ballon d'Or, il est pour moi. Ouais. Là, il y a Antoine Griezmann qui le fait. Antoine Griezmann, depuis septembre, dit à toute la presse qu'il rêve du Ballon d'Or, qu'il veut le Ballon d'Or. Il a le droit, quand on est champion d'Europe avec l'Atlético Madrid, super Coupe d'Europe avec l'Atlético Madrid, champion du monde, on a le droit de commencer à dire « je ne peux pas avoir le Ballon d'Or ». Est-ce que c'est comme ça que doit jouer un Français, et là, en l'occurrence, Antoine Griezmann ?
Est-ce que c'est comme ça ? Je ne sais pas. Moi, je pense que peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent, ça ne le fera pas pour eux cette année, malheureusement. C'est comme ça, il aurait fallu qu'il y ait moins d'adversité. Et encore une fois, Timothée l'a dit, il y a trop de concurrence pour Cristiano Ronaldo. Moi, je trouve que c'est plutôt ça joue justement en sa faveur. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, les voix vont s'éparpiller. Et lui, il fera toujours l'unanimité, parce que sur le terrain, il est tout simplement bon tout le temps. Faut pas aller chercher plus loin avec lui.
On a parlé un peu de Cristiano Ronaldo.
Modric, il fait un très mauvais début de saison, comme le Real Madrid.
Il y a Luka Modric, on a parlé d'Antoine Griezmann, un peu de Raphaël Varane. Il y en a un qu'on n'a pas parlé, qui joue au Paris Saint-Germain, qui a été buteur en finale de la Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé.
Ça serait logiquement.
Est-ce que Mbappé... J'ai l'impression, Timothée Rouvière, que vous pensez à ça.
Moi je pense à Mbappé depuis le début, mais je pense qu'il est encore un petit peu jeune. Il a 19 ans, Kylian Mbappé. S'il gagne le Ballon d'Or pour les jeunes, qui s'appelle le Golden Boy, ça serait compréhensible pour la deuxième année consécutive. Mais là, je le pense encore un petit peu jeune. Il n'est pas régulier aussi, c'est ça le problème.
D'ailleurs, si Kylian Mbappé est sur le podium du Ballon d'Or, ce serait le record absolu parce que il aurait 19 ans. Encore pour deux semaines à ce moment-là, mais il aurait 19 ans et le record c'est 20 ans avec Eusebio en 62, Ronaldo en 96 et Lionel Messi en 2007. Donc il rebattra un record qui plus est pour le Ballon d'Or, ce serait gigantesque.
Moi je pense qu'il va battre un grand record qui sera Ballon d'Or.
Pour vous c'est Kylian Mbappé.
Parce que je suis pas d'accord avec le manque de régularité. Il gagne la Coupe de la Ligue, Coupe de France, champion de France,
Trophée des champions,
dans les trois meilleurs buteurs du championnat ou quatre. Oui, trophée des champions, Coupe du Monde où il tient, qu'on le veuille ou non, l'équipe à bout de bras, où il a été décisif. Surtout. Oui, mais décisif dans l'attitude contre l'Argentine par son penalty, mais décisif par l'attitude. Ça a été quand même le fer de lance de l'attaque française. Donc, il a été déterminant dans le titre de champion du monde. Et surtout, ça a été un des seuls qui maintient le niveau de performance où il est aujourd'hui à 11 buts. Si c'est pas être régulier, ils sont à 12 ou 13 journées de championnat.
S'il avait pas moins de 20 ans, il aurait sans doute le Ballon d'Or. S'il avait fait cette saison-là à 24 ou 25 ans, il aurait sans doute. Mais je pense que l'ensemble, comme nous, ils vont tous se dire, il est peut-être un poil jeune. Est-ce qu'on peut pas attendre un petit peu? Mine de rien, quand on vote, à un moment donné, on pense forcément à ces choses-là.
Kylian Mbappé, on lui parle pas d'âge. Mais parce que finalement, le problème, c'est son âge. Ouais, c'est ça.
Après, je pense à Mbappé. Je pense que ça serait bien, ça serait mérité déjà, et puis surtout ça ouvrirait une nouvelle ère du football, parce que là ça fait 10 ans, c'est presque une dictature Messi et Ronaldo, et je pense que ça serait bien de se libérer un peu, si c'est des immenses joueurs, je pense que maintenant il faut passer à autre chose.
Il faut aller les chercher aussi.
Il faut aller les chercher. Je pense que après honnêtement Mbappé pour moi il a clairement la stature
si Paris avait fait mieux qu'un 8e.
J'espère qu'ils vont pas prendre en compte parce qu'après c'est pareil pour tout le monde, ça s'équilibre forcément. Certains joueurs n'ont pas performé en Ligue des Champions, mais quelque part ils ont été bons en équipe nationale. C'est un équilibre à trouver. Je pense qu'Mbappé à ce niveau quand même, pour moi c'est le meilleur joueur de l'année. Il y a rien à dire.
Quand vous dites Mbappé c'est le meilleur joueur, on a eu un peu l'explication avec vous, Patrice, pour Mbappé, mais on parle de Varane, on parle de Griezmann. Aujourd'hui c'est quoi les critères pour être Ballon d'Or? Les buts, bon, on exclut les défenseurs, les trophées.
Non, il parlait. Maxime l'a bien résumé. C'est une histoire d'équilibre, c'est une histoire de trophée, de performance individuelle, de performance collective, de régularité.
Ah, ça, c'est Kylian Mbappé.
Ce qui marche en plus aussi, pas mal maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que c'est pris en compte. Vous savez, toutes ces vidéos qu'il y a sur les dribbles. Avant, il y avait vraiment, on va dire, la performance pure, le résultat pur, vous voyez, la ligne au palmarès. Mais maintenant, avec sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, on voit pas mal, vous savez, des vidéos de dribbles, ça tourne pas mal, ça. Et je pense que ça peut influencer les gens qui vont voter. Parce qu'on voit pas uniquement que l'aspect des matchs, on voit aussi vraiment ce que le potentiel technique s'est vraiment développé, ça impressionne, ça en rajoute, quoi, je trouve.
Patrice Morel.
Après, les réseaux sont importants, mais encore une fois, c'est quand même un joueur qui est champion de France avec Monaco, qui part de Monaco, et Monaco est dans le dur, qui est champion de France avec Paris, et qui dégage une maturité folle. Après, est-ce que le Ballon d'Or va le... C'est trop tôt pour qu'il le reçoive. Peut-être qu'il n'aura peut-être pas les épaules pour l'avoir, même si j'en doute.
Je pense qu'il a les épaules. Le problème, c'est que les gens qui votent pensent peut-être que ça arrive trop tôt, parce que c'est une forme d'accomplissement aussi, le Ballon d'Or. Un Ballon d'Or à 19 ans, on ne l'a jamais vu. Et bon, nous, on sait tous, parce qu'on l'a entendu aussi juste après la finale de la Coupe du Monde, on sait qu'il ne va pas s'arrêter là, on sait qu'il pense déjà à l'après, on sait qu'il était déjà arrivé sur le championnat
il pense
d'Europe.
À l'Euro,
et on sait que pour lui, le Ballon d'Or, ce n'est pas une fin en soi. Mais pour les autres, ça l'est.
Genre Antoine Griezmann.
Voilà.
Par rapport à sa carrière. Antoine Griezmann, il a fini 3e, c'est le dernier Français à avoir fait un podium. C'était en 2016 où il perd en finale la Ligue des Champions, donc en finale d'une Coupe d'Europe. Et il perd en finale de l'Euro. Là, il gagne une Coupe d'Europe et il gagne une Coupe du Monde.
Ah, oui.
Obligé d'être mieux classé que 3e.
Ouais, mais il a été moins décisif.
Oui, il a été moins décisif, et surtout dans une équipe comme l'Atlético qui est défensive, et donc en termes de buts, il n'en marque pas énormément. Et le fait de proclamer comme ça qu'il veut absolument le Ballon d'Or, ça peut jouer en sa défaveur, moi je pense.
À l'Euro, il avait été décisif pour l'équipe de France, il avait été désigné meilleur joueur d'ailleurs, là il ne l'a pas été. Effectivement, l'ombre d'un joueur comme Mbappé, forcément, il la prend sur lui aussi, parce que en attaque, on pense plus qu'à Griezmann. Quand on pense à l'équipe de France, on pense presque avant tout à Kylian Mbappé maintenant.
Dernière dernière question. On commence à entendre les rumeurs sur le Ballon d'Or. On commence à voir un podium qui se dessine toujours selon les rumeurs. Et le premier, ce serait le Croate, Luka Modric. Venons sur ce cas. Ce serait tout simplement le deuxième Croate à être sur un podium du Ballon d'Or. Le premier, c'était en 98, c'était Davor Šuker. Déjà, est-ce que bon, qu'il soit sur le podium, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À la première place, est-ce que c'est logique qu'il a été le fer de lance et du Real Madrid pour atteindre la Ligue des Champions et de la Croatie pour atteindre la finale de la Coupe du Monde ? C'est logique ou pas ?
C'est tout sauf scandaleux, d'autant qu'il a déjà trusté pas mal de trophées là, meilleur joueur de la Coupe du Monde, joueur FIFA de l'année, joueur de l'UEFA aussi de l'année, si je dis pas de bêtises. Bon, il a participé grandement au triple couronnement du Real Madrid. Il amène la Croatie en finale. Évidemment que ce serait tout sauf scandaleux. Oui.
Après, moi, je suis pas dans le scandale ou le non-scandaleux. Après, Modric, si Modric, pour moi, je l'associe à Varane, c'est-à-dire une saison entièrement loupée en championnat. C'est là. Certes une Ligue des Champions. Après, il n'est pas champion du monde, ce que Varane est. Ouais. Et surtout, une deuxième partie, sachant que le Ballon d'Or est quand même sur une année civile.
C'est vrai.
Une deuxième partie catastrophique. Pour moi, il ne peut pas sportivement être Ballon d'Or.
Ouais, mais il a marqué les esprits au mondial.
Thibaut Rouvière.
Moi, je pense qu'il y a possibilité. Ce ne serait pas illogique qu'il soit Ballon d'Or, mais il serait récompensé sur l'ensemble de sa carrière. Modric, il va avoir facilement 30 ans. Ça peut être un peu comme Iniesta en 2010, même s'il n'a pas gagné. C'est sur l'ensemble de sa carrière.
Je suis d'accord, mais on en parlait tout à l'heure avec Kylian Mbappé. On disait oui, c'est trop tôt. Enfin, il ne faut pas avoir 15 ans de carrière pour gagner le Ballon d'Or. On note sur la saison. Si sur la saison Mbappé le mérite, ou si qu'il ait fait sa première saison professionnelle, ou si Modric ne le mérite pas.
Et ceux qui votent n'arrivent pas à se cantonner à ça, évidemment. On est tous pareils. Là, on est en train de parler de. On aurait tous aimé qu'Iniesta gagne en 2010. Ah, mais si sur la saison, Messi était meilleur. Parce que Iniesta, on adore ce joueur. Mais sur une saison, il n'a jamais été meilleur que les autres. Sinon, il aurait été Ballon d'Or. Là, c'est la même chose. Quand on vote, on ne peut pas penser que du 1er janvier au 31 décembre, c'est impossible.
Merci messieurs pour le débat du Ballon d'Or.
Le Radio Don.
Radio Don, ça veut dire merci.
Et une dernière info, transfert. Emmanuel Pella, l'animateur de Vivante Église, vient de prolonger à Radio Présence. Cette semaine lui est dédiée avec le Radio Don, avoisinant le salaire de Neymar. Nous comptons sur vous pour nous aider. Pour ça, appelez le 05 62 48 63 00, le 05 62 48 63 00 sur le site radioprésence.com.
Bye.
C'était Alex Campos sur Radio Présence.
Oui. J'adore ce suspense.
Ah oui.
Portez-vous bien. L'invité.
Notre invité est champion d'Europe de football des U19 en 1997, ancien joueur du TFC ou encore de Guignon en Ligue 2 à cette époque. Patrice Morel fait aujourd'hui le bonheur de l'US Colomie en tant qu'entraîneur. Patrice, rebonsoir.
Rebonsoir.
Premier invité de football de la saison, ah, on en oui. a parlé un petit peu.
Il y a eu un agent.
Voilà. On a eu un agent. Mais sur le terrain, c'est le premier invité de football de la saison. Question fatidique, on en a un peu parlé avec le Ballon d'Or. Mmh. En tant qu'amoureux du football, comment on a vécu la Coupe du Monde 2018?
C'est assez paradoxal parce qu'on était content de voir cette équipe évoluer, gagner des matchs. En même temps, on avait toujours cette mémoire à 98 où.
Ouais,
qui est assez fausse d'ailleurs, puisqu'en 98, il y a eu très peu de bons matchs.
Oui. À part la finale. Il y a juste la finale qui a abouti en 98.
Oui, mais souvent les dernières émotions, c'est celles qui restent.
Oui, c'est vrai.
Et il reste l'émotion de France-Brésil, et qui quelque part masque tout le parcours chaotique des Bleus jusque-là. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, on a eu du mal peut-être à vraiment s'enflammer. C'est le côté peut-être pragmatique de cette équipe, de Didier Deschamps, qui a tiré le meilleur de ses hommes. Qui
non, mais elle n'aura jamais la même saveur qu'un France-Brésil à domicile en 1998, alors que le Brésil... Parce que c'était la première, c'est sûr. Quoi.
Oui, parce que France-Brésil, tout enfant, quand il joue dans la cour d'école, il est soit français, soit brésilien. Et c'était, surtout à ce moment-là, c'était la finale rêvée. Et d'ailleurs, elle avait été, même Platini l'a avoué, le tirage a été organisé pour que il y ait cette possibilité.
Des petits arrangements.
Oui, mais ça, c'était il a avoué. Donc.
Oui, c'est vrai, il l'a avoué.
En tant qu'entraîneur, vous voyez l'équipe de France championne du monde du côté, on a été très fort, on la mérite entièrement, ou vous êtes plus du côté de ceux qui disent on a été moche, mais on a été chanceux?
Non, chanceux. Je pense que Deschamps est un énormissime entraîneur. C'est-à-dire qu'il a été capable dans le management de jouer un petit peu avec ses hommes. Donc, je pense qu'il a lancé les jeunes au départ en sachant très très bien que le premier match allait être difficile, que ça allait être moyen pour lui de leur montrer la marche qui reste à faire pour réussir. Et quelque part, il gagne, mais pour moi, c'est pas un hasard. Il a réussi à faire défendre Mbappé, qui défend beaucoup moins à Paris.
On le voit.
Il a réussi à faire défendre Pogba, qui défend très très peu à Manchester et surtout qui est devenu un vrai leader pour cette équipe de France. Et ça, c'est pas rien. Et surtout, il a réussi, pour moi, ce qui est la qualité principale d'un entraîneur avec son groupe, c'est la cohésion. Et on sent que les mecs, ils sont heureux d'être ensemble. Il leur tarde qu'une chose, c'est se retrouver. Il y a quelque chose quand même qui est fort. Voilà, Matuidi qui joue ailier gauche, qui dit rien. Enfin, c'est un joueur monumental. Et
Pavard qui joue à droite alors qu'en club il est défenseur central gauche.
Oui, mais Pavard c'est un jeune joueur. Ce qui est là où on voit plus la patte du coach, c'est sur ces joueurs expérimentés, comment ils acceptent ce qui peut être pour eux par rapport à leur ego très difficile. Et Pogba, il répète Matuidi, il joue à gauche avec plaisir et surtout il apporte ce plus à l'équipe. Après, on critique Olivier Giroud. Mais malgré tout, il y a la France avec, il y a la France sans Giroud. Et ça. Je pense que quand on est face à toutes les critiques dont il a dû faire face, Didier Deschamps, pour moi, c'est un très, très grand.
Et on commence par votre parcours professionnel durant quelques années. Quels souvenirs gardez-vous de votre carrière?
De ma carrière, les souvenirs. J'ai toujours du mal aujourd'hui à ce qu'on me qualifie comme un ancien pro.
C'est vrai. Pourtant, vous avez joué plus de 100 matchs en Ligue 2, ce qui est non négligeable dans le football, c'est le niveau professionnel.
Ah non, mais je suis fier de mon parcours. Ouais. Je connais exactement mon nombre de matchs professionnels, c'est 200. Voilà, donc je sais très bien ce que j'ai fait.
200, c'est 6 saisons quasiment.
Ouais. Ouais, j'ai fait 10 ans pro, surtout une belle carrière de Ligue 2. Voilà, une belle carrière de Ligue 2. Mais après, je me suis arrêté quand j'ai voulu, j'en avais assez, je voulais vraiment passer de l'autre côté entraîner. Et puis, c'est maintenant que je prends vraiment du plaisir, où on se sent utile. Joueur, on joue avec son potentiel, ses qualités, de façon toujours un petit peu égoïste, parce qu'on est quand même centré dans le collectif. Voilà, moi, je me retrouve beaucoup plus, en tout cas, ma personnalité se retrouve beaucoup plus dans le fait de transmettre, et puis, de faire passer quelque chose et de laisser une trace.
Vous avez été champion d'Europe des moins de 19 ans, on en a parlé tout à l'heure, en 1997, avec par exemple Zoumana Camara, qui est aujourd'hui un des adjoints au Paris Saint-Germain, Louis Saha. La majorité de carrière, vous l'avez dit, est en Ligue 2. Qu'est-ce qui vous a manqué avec le recul pour durer, surtout à l'échelon au-dessus?
Ce qui a manqué, c'est que les choses ont changé. Moi, j'ai fait. Si on doit faire ce retour-là, ben on va le faire. J'ai fait toutes les équipes de France, hein, de 15 ans, de 15 ans jusqu'à même 21 ans, puisque je suis vice-champion des Jeux de la Francophonie, où on perd en finale. J'ai toujours été un joueur important, capitaine ou capitaine en deux, avec des joueurs qui ont été de classe. Il y avait de notre génération, il y avait Nico Anelka, Peter Luxeng.
Ça aussi. Hein.
Il y avait petit Louis Saha, il y avait Yves De Roff, Piocel.
David Elbuic aussi. Dalmat,
non? Il y avait David Elbuic. Non, Dalmat est plus jeune. Il y en avait Mika Landreau dans les buts. Philippe Christenval, on avait une équipe, une équipe monstrueuse, oui, effectivement. Voilà.
Juste après votre carrière, vous êtes devenu l'entraîneur donc de l'US Colomiers. Ça a été naturel, après une carrière professionnelle, de devenir entraîneur, de faire passer ce qu'on a appris durant 10 ans?
Naturel. Après, il y a toujours un passage, ce qu'on appelle la petite mort, elle existe. C'est-à-dire qu'on se lève tous les matins en faisant ou en vivant de notre passion. Juste une petite anecdote, je le vois encore, en classe, je crois que c'était en CE2, où vous savez, les professeurs vous demandent qu'est-ce que tu feras plus tard. Et j'avais écrit, bien évidemment, comme j'ai toujours écrit, c'est footballeur professionnel. Et le maître, c'était Monsieur Cipollone, qui m'avait dit non, mais écris un vrai métier, pompier, ambulancier, astronaute. Et non, j'avais maintenu le cap, j'ai dit je serai footballeur professionnel. Voilà, donc quand on est convaincu, quand on a une passion, c'est fort.
Et pourquoi avoir choisi d'entraîner à Colomiers? Est-ce que c'est parce que vous êtes du coin? Est-ce que c'est parce que l'occasion s'est présentée?
Après, ça, c'est la fin de carrière aussi, où j'en avais assez de bouger. J'étais en Turquie avec un club qatari, où je devais m'engager, puis je me vois rappeler mes parents pour me dire, écoute, prends-moi un billet d'avion et je rentre, c'est terminé. J'avais 29 ans, j'avais des cales encore, 30 ans, je sortais de 3-4 saisons pleines. Mais j'en avais assez de bouger, donc je suis originaire du Gaillacois. Voilà, donc je continue un petit peu à m'entretenir avec Albi, puis après il y a eu un contact avec Ahmed Aïtali à Colomiers, voilà, où je me suis inscrit comme joueur au départ, avec cette envie de se reconvertir. Après, j'ai pris joueur, je m'occupais des 15 ans élite, j'ai entraîné beaucoup d'équipes, des 15 ans élite. Après, je me suis occupé des 19 ans, après de l'équipe 2, et puis après de l'équipe première depuis 5 ans.
Ça fait 5 ans que vous êtes sur le banc de l'équipe première. Quel bilan faites-vous là depuis 5 ans à titre personnel?
Après, pour moi, les bilans, je crois beaucoup aux chiffres. Ça, après, quand on parle de ballon d'or, on est dans l'irrationnel, puisqu'il n'y a pas de critères de valeur. Par contre, c'est les chiffres, c'est-à-dire que nous sommes tout le temps dans la pire place que l'on ait eue en National 2, c'est 5e, sinon c'est 2, c'est 3.
Sachant qu'il y a seulement le premier qui monte en National.
Oui, il n'y a que le premier qui monte, mais dans toutes les divisions, il y a quand même une valeur qui refuge, c'est le budget.
Ouais.
Et donc, nous, là où je suis très fier, c'est qu'on fait ce que j'ai voulu mettre en place depuis maintenant plus de 5 ans, puisque c'était à l'époque que j'avais les jeunes. C'est-à-dire de fonctionner avec nos jeunes de la formation, et on arrive à être très performant avec 80% de l'effectif formé au club.
On parle des jeunes là actuellement de Colomiers, il y a le TFC, il y a l'ombre du TFC qui est à côté. Beaucoup de joueurs vont au TFC et reviennent du TFC une fois leur formation pour rebondir à Colomiers.
Ça fait partie du parcours, du cursus. On est très bon sur les équipes de jeunes, donc on a des jeunes qui viennent tôt sur l'école de foot, qui arrivent jusqu'à 14, 15 ans élite, et après qui veulent vivre également leur passion, donc ils partent dans les clubs pro, dont le TFC fait partie, et nous l'idée c'est de, pour moi c'est important cette image club, donc ces joueurs-là qui n'arrivent pas à passer pro, mais c'est d'arriver de les récupérer, on en a quelques-uns à ce cas-là.
Est-ce que vous arrivez à vivre, moi je me rends pas compte à quel moment on touche un salaire quand on est coach, à partir de quel niveau, est-ce qu'en foot, voilà, National 2, vous coach de Colombie,
quel équivalent à 4ème division,
la 4ème division, est-ce que vous arrivez à vivre de ça ou est-ce que vous avez une activité professionnelle à côté?
Non, moi c'est mon travail à temps plein depuis de nombreuses saisons. Après, une association comme l'US Colomiers, c'est 700 licenciés, c'est 38 éducateurs. Voilà, donc moi j'ai cette particularité d'être directeur technique de la structure, donc en charge du projet sportif, et Dieu sait qu'il est grand. Ouais. Et puis entraîneur de l'équipe 1, aujourd'hui où on est à 5 entraînements par semaine, plus des déplacements, avec un nombre de matchs à la fin de la saison qui correspond à la Ligue 1.
C'est ça, on est quasiment sur un rythme de club professionnel.
C'est ça.
On parle de déplacement, vous avez fait match nul ce week-end à Trélissac, un but partout, et vous gardez quand même la tête du classement, on est fin novembre, début décembre, est-ce que l'objectif est clairement de la montée, ou c'est encore trop tôt pour le dire?
Après, moi je vais parler que de points. Aujourd'hui, nous avons 25 points, nous sommes à plus de 2 points de moyenne. Dans les autres poules, le maximum de points c'est 23. On est dans les critères de ce que l'on fait d'habitude. Non, l'objectif c'est de continuer de progresser, que nos jeunes joueurs progressent, que ce groupe progresse. Après, il est bien évidemment trop tôt pour parler de quoi que ce soit. Et puis on est bien placé, puisqu'on a la mémoire. La saison dernière, on a été aussi longtemps très très bien placé. Et puis on s'est un petit peu effondré sur la fin.
Rendez-vous ce week-end pour la réception de la réserve du Nîmes Olympique, qui joue, eux, les pros jouent en Ligue 1. Donc c'est un beau match pour l'US Colomiers. C'est déjà terminé pour ce soir. Merci à vous, merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez à 7h Rémi Soulomiak, Isabelle Onaille et Corinne Saint-Félix. À 9h Vivante Église. On se retrouve lundi. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.